C'est moi aussi.
Oups, pas si ça va se placer, j'imagine.
C'est moi aussi un plaisir là, d'être avec vous là, ce matin. Là. Comme je dis, à chaque fois que je viens ici, j'ai fréquenté là, le groupe jeunesse de cette église là, quand j'étais adolescent. Puis toujours gardé un attachement là, particulier là, à l'église là, du Cap. Fait que je suis content d'être parmi vous. Écoutez, quand on m'invite à prêcher dans d'autres églises, je me questionne toujours sur quel message je vais amener. C'est probablement pas un secret pour personne ici là, que quand un prédicateur est invité dans une autre église, ben, on prend toujours une prédication qu'on a déjà faite, puis on la ramène, hein, on remonte pas quelque chose à zéro. En tout cas, c'est ce que je fais habituellement quand je suis invité à l'extérieur. Puis jusqu'à récemment, je me demandais, bon, qu'est-ce que je vais amener à mes frères et sœurs de l'Assemblée du Cap? J'ai l'habitude, dans mon église locale, de faire une prédication par année sur le mariage. Je la fais habituellement le week-end là, qui est de la Saint-Valentin. J'ai décidé ce matin de vous amener le message que j'ai fait à l'occasion de la Saint-Valentin là, dans mon église locale là, sur le mariage. Pourquoi parler du mariage chaque année dans l'église? Comme mon frère là, l'a mentionné, j'ai le privilège d'accompagner des couples en difficulté là, dans la région, puis également dans différents coins de notre province. Et puis, la Bible parle beaucoup du mariage parce que c'est difficile de réussir un mariage. C'est difficile pour deux pécheurs ensemble, même si on est des saints, on est rachetés et purifiés par le sang d'agneau, en Jésus, comme le chant le disait dans le dernier chant. C'est difficile de vivre étroitement, en intimité, deux pécheurs ensemble. Donc, moi, je vais vous parler un peu du mariage ce matin. Par contre, il va y avoir quelques applications pour les gens ici qui sont célibataires au fur et à mesure, là, en cours de mon message. Avant d'aller plus loin, on va demander l'assistance du Seigneur pour qu'il puisse utiliser le message imparfait que j'ai préparé pour vous pour quelque chose qui sorte de bon là, dans vos vies et dans les miennes. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, on vient tous et toutes devant toi pour te demander ton assistance ce matin. On veut, Seigneur, que tu transformes nos vies. Célibataire comme personne mariée ici dans la salle, on veut que tu transformes nos vies, que tu nous rencontres. Puis, on te remercie de ce que, par le sang de la croix, tu ne seras plus jamais en colère contre nous. On te remercie parce qu'en Jésus, comme dans le dernier chant, on est complètement purifié. Et puis ça, même quand, comme croyant, on fait des péchés terribles. Puis, je te remercie, Seigneur, pour ce qui s'est passé à la croix. Dans le nom de Jésus. Amen. Une fois qu'on sait que c'est Dieu qui a créé le mariage, une des premières questions qui se pose, c'est pourquoi Dieu a créé le mariage. Parce que vous savez, au début, dans le jardin d'Éden, le péché n'était pas encore rentré dans le jardin. Il n'y avait pas la chair là, qui nous pousse constamment, même comme chrétien, à faire le mal. Là, puis Paul en parle dans Romains 7. Il dit « Je ne fais pas le bien que je veux. » Puis je fais le mal que je veux pas, puis qui va me délivrer? Donc, même comme croyant, on a la chair, sarx en grec, hein, la propension à pécher, le principe du mal qui agit en nous. Comme croyant, on commet autant, j'espère que je ne choquerai pas personne, mais j'ai fait assez de counseling dans les dernières années pour savoir, comme croyant, on fait autant de péchés que les non-croyants, puis on fait les mêmes péchés que les non-croyants. J'espère pas péter la bulle de personne. Pourquoi Dieu a créé le mariage avant que le péché rentre dans le monde? Adam était dans un paradis terrestre, le jardin d'Éden. Il était en relation parfaite avec Dieu. Donc, si Adam était en relation parfaite avec Dieu, il n'y avait pas encore le péché, la communion avec Dieu n'était pas rompue, les animaux n'étaient pas méchants à cette époque-là. Tu peux jouer avec le serpent, avec le lion, puis il n'y avait pas de problème. Là, c'était dans un paradis terrestre. Pourquoi Dieu a créé le mariage? Ça, c'est une bonne question. Lisons ensemble Genèse, chapitre 2, versets 18 à 25. L'Éternel, Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est eau de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc, c'est intéressant qu'avant la chute, Dieu ait toujours dit, quand il crée les animaux, les insectes, les astres, la terre, la mer, quand Dieu crée toute chose, il dit toujours que l'Éternel trouva que c'était bon, hein, que c'était une bonne chose. Puis, c'est intéressant que rendu à l'homme, ben, il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, c'est curieux que Dieu ait trouvé qu'il manquait quelque chose à l'homme alors qu'il était en relation parfaite avec lui. Parce que pourtant, on sait très bien comme enfant de Dieu que notre besoin avec un grand B, là, notre besoin primaire comme être humain, c'est être en relation avec Dieu. Mais il semble que même alors qu'Adam est en relation parfaite avec Dieu, le péché n'est pas encore rentré, ben Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Surprenant. Donc, Dieu crée la femme. Dieu était un Dieu parfaitement relationnel. On sait que Dieu est en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puis Dieu est en constante relation entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Fils, le Saint-Esprit, le Père. Donc Dieu est un Dieu relationnel. Puis quand il a créé l'être humain, il l'a créé à son image. Dieu nous a créé des êtres relationnels qui s'épanouissent quand on est en relation les uns avec les autres. Puis c'est pour ça, moi j'aimerais vous le suggérer, que même avant l'arrivée du péché, Dieu a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Dieu voulait que l'homme soit en relation avec ses semblables. Puis là, Dieu crée la femme. Bon, si vous lisez des commentaires sur Genèse 2, vous allez voir plein de commentateurs qui disent que bon, c'est une belle image que Dieu ait pris la côte de l'homme parce que ça veut dire que l'homme est incomplet quand il n'y a pas une femme à ses côtés. Puis il y a toute cette imagerie-là. Puis écoutez, j'imagine qu'il y a un peu de vrai là-dedans, mais en même temps, d'un point de vue absolu, on sait dans le Nouveau Testament que ça serait faux de prendre cette image-là trop loin. Jésus était célibataire, puis il n'était pas incomplet. Et puis on sait dans Corinthiens 7 que Dieu donne le don du célibat à certaines personnes. Donc, mais quand même, il y a une image. Il y a une image qu'on peut retenir. On pourrait également se demander que veut dire le mot hébreu traduit en français par « aide » au verset 18. Parce que... pour tomber de la chair. Ici, je lui ferai une aide semblable à lui. Et puis, quand on va dans les lexiques hébreux pour trouver le sens du mot aide, c'est le sens d'entourer, de protéger. Puis, il y a même le sens dans le mot aide, dans le mot hébreu, le sens d'encourager. Donc, écoutez, il n'y a pas d'une manière précise le sens de amitié. Dans le mot aide, je ne vais pas faire dire au texte ce qu'il ne veut pas dire. Par contre, quelqu'un qui t'entoure, qui te protège, qui t'encourage, si c'est pas un ami, ben dites-moi ce qu'ils font vos amis. C'est pas mal la définition, dans mon sens, d'un ami. Donc, puis on va voir plus loin que la Bible enseigne que Dieu voulait donner une amie à l'homme. Puis je vais tourner dans des passages en Proverbes, dans Cantique des Cantiques tantôt. C'est intéressant de voir que la Bible enseigne l'aspect de l'amitié dans le mariage. Parce que vous savez, au niveau de la psychologie séculière, saviez-vous que les thérapies maritales, au niveau non chrétien, par les conseillers maritales non chrétiens, par les psychologues non chrétiens, ce sont les thérapies qui sont les moins efficaces, qui ont le plus bas taux de succès. Mais dans les années 80, il y a un psychologue, là, un docteur en psychologie américain, un docteur John Gottman, qui a fait une découverte qui a complètement révolutionné le monde de la psychologie maritale dans le monde. Ce psychologue-là a découvert que le facteur le plus important dans un couple pour que le mariage perdure, Là, on parle d'un psychologue non chrétien qui a fait une découverte qui a complètement révolutionné le monde de la psychologie. Il a découvert que ce n'était pas la compatibilité d'avoir des gens bien compatibles. John Gottman a découvert que ce n'était pas l'estime de soi. John Gottman a découvert que ce n'était pas non plus la romance. John Gottman a découvert, en faisant des suivis avec des couples, que les couples qui perduraient et qui s'épanouissaient, c'est des couples qui avaient d'amitié. Tout simplement. Il a découvert que les couples qui réussissaient après 15 ans, 20 ans, 30 ans, ce n'est pas des couples qui n'avaient pas de problèmes. Parce que tous les couples ont des problèmes qui ne sont pas résolvables. Ce n'est pas tous les problèmes de couple qu'on peut régler. Il existe des cul-de-sac. Mais lui a découvert que s'il y avait une amitié dans le couple, un couple pouvait s'épanouir malgré certains cul-de-sac. Maintenant, là, il y a plein de cliniques John Gottman Certified aux États-Unis. Puis ça a vraiment changé le monde de la psychologie. Puis pourquoi je vous dis ça? C'est parce que bien avant Gottman, la Bible nous l'enseignait. Donc, c'est intéressant de voir que Dieu nous partageait cet aspect-là avant. 2000 ans avant, 3000 ans avant, Dieu nous enseignait ce principe-là. Dans Proverbes 2, 16 et 17, on a un beau poème sur l'importance de choisir la sagesse et puis de ne pas choisir la folie. On sait que le livre des Proverbes en hébreu, c'est de la poésie, c'est un livre qui fait partie des livres poétiques. Il y a quand même une image là au niveau du jeune homme de ne pas choisir la femme étrangère, de ne pas commettre l'adultère. Puis il dit, pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie son alliance avec Dieu. Donc, ces deux versets-là qui sont tirés du poème qui explique l'importance de la recherche de la sagesse mentionnent que l'épouse du jeune homme est appelée son amie. Dans le Cantique des Cantiques, verset 5-16, on voit « Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. » La réalité est la suivante. Quand on regarde la définition du mot « aide » dans Genèse 2, quand Dieu a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », c'était avant le péché, puis l'homme est en relation parfaite avec Dieu, je vais lui créer une aide, quelqu'un pour l'entourer, pour l'encourager, pour le protéger. Puis on voit dans les Proverbes que c'est un ami. On voit dans le Cantique des Cantiques que le conjoint est un ami. La réalité est la suivante. Dieu a créé la femme. Pas pour la romance, premièrement, même si c'est bon. Pas pour la sexualité. Pas pour faire des enfants, tel que certains philosophes disent. Dieu a créé la femme, mais c'est pour procréer, pour qu'on puisse se multiplier. On voit très clairement dans Genèse 2, dans la définition du mot aide, quand on tourne dans différents passages dans les Proverbes, dans les Cantiques des Cantiques, que Dieu avait pour plan de créer une amie avec laquelle l'homme pourrait cheminer durant son temps sur la terre, durant la vie sur la terre. C'est un aspect de la création même du mariage qu'on est porté à oublier. On parle de la sexualité, on parle de la résolution de conflits, de la communication, puis c'est bon de faire ça. Mais on est porté à oublier ce que même les non-croyants ont redécouvert, ça a changé leur vie, que Dieu a créé le mariage pour qu'on ait une amitié intime, et puis que c'est cette amitié-là qu'il faut entretenir dans le mariage si on veut goûter au cadeau que Dieu nous a donné, puis a créé lui-même. Dans notre société, il y a une emphase énorme sur la sexualité, sur la romance, sur l'épanouissement personnel. Puis c'est facile d'oublier, comme croyant, pourquoi Dieu a fondé le mariage. Puis, si on oublie ça, c'est certain que notre mariage ne sera pas son meilleur. Écoutez, maintenant, ceci dit, je parlais là, que Dieu a créé le mariage et la femme pour qu'on puisse avoir une amitié, qu'on est relationnel, ça vient qu'on est créé à l'image de Dieu. Ça, c'est bien beau. Mais c'est quoi une amitié? Est-ce que la Bible nous donne une définition quelconque d'amitié? Parce que c'est bien beau de savoir que Dieu a créé la femme pour qu'on ait une amie, mais si on ne sait pas c'est quoi une amie, on n'est pas avancé. Dans son livre le mariage, Tim Keller, qui est un docteur en théologie, qui est pasteur d'une immense église là, à New York, une église de 5-6 000 personnes, il dit, le paradoxe, et que l'amitié ne peut pas être simplement à propos d'elle-même. Elle doit être à propos de quelque chose d'autre. Quelque chose auquel les deux amis sont engagés et passionnés à l'extérieur d'eux-mêmes. Puis ça, C.S. Lewis, pour les amateurs de ce théologien-là, dans son livre « Les quatre sortes d'amour », lui aussi, il dit la même chose que Tim Keller. Il dit l'amour érotique est une passion pour l'autre, mais que l'amitié, c'est d'avoir une passion commune pour quelque chose d'autre. C'est logique. Réfléchissez à vos meilleurs amis. Puis, vous allez trouver un terrain commun. Soit vous jouez au quai ensemble, vous faites des tournois de quai ensemble, soit vous êtes passionné pour la Villa du Carmel et le ministère là-bas, soit vous faites de l'évangélisation. Puis, c'est pas tant la compatibilité ou encore les générations. Moi, je peux vous dire, mes péchés comme tout le monde, mais je suis vraiment passionné pour l'œuvre dans mon église locale. On est trois générations dans notre équipe pastorale. Il y a la jeune génération dans la trentaine, on a une personne dans la cinquantaine, puis on a quelqu'un de plus de 70. Puis, dans les 10 dernières années, dans l'équipe de pasteurs, j'ai développé une amitié. J'aurais jamais cru ça, pas que j'aime pas le monsieur de plus de 70, mais j'ai développé une amitié avec ce monsieur-là. De sorte que, il prend des cafés à la maison, je vais en prendre chez eux, on s'appelle chaque semaine. La raison pour ça, c'est parce que c'est pas une question d'avoir le même âge. C'est pas une question d'avoir une compatibilité. C'est un monsieur qui a une autre race, qui vient d'un autre pays. Fait que, tu sais, on n'a pas la même culture. Vous savez, une amitié, c'est deux personnes qui sont passionnées pour la même chose. Comment je pourrais vous dire ça? L'envers de la médaille. Pensez à une amitié que vous avez déjà eue avec quelqu'un, par exemple, qui était, faisait du bénévolat avec vous, vous étiez tous les deux dans un parti politique, vous faisiez la politique ensemble. Cette personne-là s'est détachée de la politique ou du bénévolat de la tâche populaire. Cette personne-là, encore, était dans le ministère d'évangélisation avec vous, s'est détachée du ministère d'évangélisation. Vous allez voir que même si vous vous dites, on va entretenir, on va se voir moins souvent, on va entretenir l'amitié, vous allez voir, on va se garder amis, on se dit ça des fois pour se consoler. Vous allez voir que si vous vous éloignez de la cause commune qui vous rapprochait, l'amitié va s'affaiblir pour se terminer graduellement. Donc, une des définitions de base de l'amitié, c'est avoir une passion commune. C'est ce que Lewis nous dit, puis c'est ce que Tim Keller nous dit également. Je vais vous dire quelque chose qui, je pense, a le potentiel de vous scandaliser. Vous me laisserez donner mes explications avant de me sortir ici de la tribune. Et voici, un mariage n'a pas besoin du Seigneur pour réussir. Je suis sérieux. Un mariage n'a pas besoin du Seigneur pour réussir. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que si un couple a une solide amitié, basée sur une passion autre que sur Christ, le mariage va réussir. Je peux vous montrer plein de couples non-croyants, des couples bouddhistes, des couples musulmans. Je peux vous montrer plein de couples qui, après 20 ans, 30 ans, s'aiment toujours. Leur mariage réussit. Maintenant, un couple qui réussit, s'il n'est pas basé sur Christ, s'ils n'ont pas Christ dans leur vie, ils vont aller en enfer pour l'éternité. Fait que c'est sûr que c'est la réussite est de courte durée, on s'entend là-dessus. Leur vie va être gâchée. Mais leur mariage va fonctionner, par exemple. Leur mariage va fonctionner. Parce que un mariage doit avoir à la base une amitié qui va le solidifier. Donc moi, ce que je vous encourage ce matin, parce que je sais que beaucoup de gens disent « rapproche-toi du Seigneur », puis les gens qui essaient de se rapprocher du Seigneur, mais ils ne développent pas leur amitié dans le couple. Ben, ils vont aller au ciel, puis tant mieux, ils vont porter du fruit, puis c'est une bonne chose. Mais si on ne développe pas notre amitié dans le couple, notre mariage ne fleurira pas. Fait que ça, c'est important de retenir ça. Comment entretenir? Bon, je vais parler de Dieu a créé le mariage pour qu'on ait une amitié. Maintenant, je vais parler un petit peu de c'est quoi l'amitié, quel est l'aspect d'avoir une passion commune. Maintenant, j'aimerais vous donner, moi, trois moyens bibliques que la parole nous enseigne. Encore là, on n'apprend rien de nouveau hein, dans la psychologie du monde. La parole, Dieu nous a tout dit. La parole de Dieu est suffisante pour amener l'homme et la femme de Dieu en toute sainteté et en toute croissance spirituelle. Donc, qu'est-ce que la parole nous dit sur l'amitié? Le premier principe que j'aimerais vous amener, c'est la constance. Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps. Et dans le meilleur, et dans le malheur, il se montre un frère. On voit vraiment un véritable ami quand ça va mal. Moi, j'aimerais vous suggérer qu'un des meilleurs moyens de savoir qui sont ses amis est de vivre une dépression. Maintenant, j'ai accompagné des gens qui ont vécu des dépressions. C'est vraiment pas drôle. Mais quand on a une dépression, les gens qui vont rester autour, alors qu'on va broyer du noir, qu'on sera plus funné, qu'on sera plus drôle, qu'on sera plus pépé, ben, ça va être nos vrais amis. Puis les gens qui vont être des connaissances, pas nécessairement des ennemis là, ou des traîtres, mais des connaissances ou des gens de l'entourage, ben, dans les moments de malheur, de dépression, ils ne seront plus là. Donc, la constance, c'est un des meilleurs moyens de développer une amitié. Pour bâtir une amitié biblique dans votre couple, pour ceux qui ne sont pas mariés ici, simplement dans votre église, ben, c'est d'être constant et de ne pas arrêter d'aimer. Le deuxième principe que j'aimerais vous amener, c'est la transparence. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. La blessure d'un ami prouve sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Proverbe 25, 5 à 6 et verset 9. Un vrai ami ne cachera pas son jeu. Vous savez, il y a bien des gens qui prétendent être des amis, mais qui aiment mieux la relation que la personne. Moi, si je suis ami avec vous, puis que quand je vois que vous commettez une faute, une erreur, un péché, si je vais vous reprendre, ben, je suis en train de mettre en péril mon amitié avec vous. Je risque mon amitié avec vous, parce qu'on n'aime jamais ça, se faire reprendre. Puis quand on se fait reprendre, même si on reprend l'autre comme il faut, il est possible que ça casse et qu'on perde notre ami. Donc, une vraie amitié, c'est de la transparence, de se montrer tel qu'on est, puis d'être assez transparent pour si on voit de quoi qui cloche dans la vie de l'autre, aller le voir et lui dire. Une vraie amitié, c'est aimer assez la personne pour risquer notre relation avec elle, pour l'exhorter si jamais on voit qu'elle s'éloigne. Moi, je sais que dans ma vie, à bien des reprises, je n'ai pas aimé assez des gens dans mon entourage pour risquer ma relation. Parce que moi, écoutez, pour ceux qui ne me connaissent pas ici, je ne suis pas un gars de trouble. Moi, j'aime pas le trouble. J'aime ça quand ça va bien et quand il n'y a pas de problème. Puis quand on va reprendre quelqu'un, ben Dieu sait que c'est un potentiel de trouble et de difficulté. Puis là, les gens, des fois, vont dire « Hey, c'est toi le problème finalement, puis patati, c'est de ta faute. » Là, il faut que tu t'auto-examines. Des fois, tu te sens coupable. C'est toute une histoire. Moi, j'aime pas le trouble. Fait que quand tu te tiens à carreau, individuel, comme dans la société individualiste, fais ton affaire, je vais faire la mienne, mène ta vie, je vais mener la mienne, ben, ça va bien, on n'a pas de trouble. Mais c'est pas ça l'amour biblique. L'amour de Christ, ça nous presse. L'amour de Dieu, elle nous amène à aller vers l'autre, puis à être prêt à risquer notre relation avec l'autre si c'est nécessaire. Transparence. Se montrer tel qu'on est. Vous savez, se montrer tel qu'on est, c'est dangereux. J'ai appris avec le temps qu'on est bien plus méchant comme chrétien qu'on le croit. Mais j'ai appris aussi que la grâce de Dieu est beaucoup plus puissante que moi, en tout cas, je le croyais dans le passé. Et puis que ça soit une dépendance aux drogues, que ça soit de l'hypocrisie, du mensonge, que ça soit que vous viviez ce matin un combat au niveau de l'immoralité sexuelle, j'ai appris que le sacrifice de Jésus à la croix est tellement puissant que plus jamais la colère de Dieu va être sur nous, malgré le combat puis les chutes les plus répétées. Maintenant, on sait qu'un vrai chrétien va persévérer jusqu'à la fin, mais Dieu sait que comme croyant, là, le parcours est chaotique, puis qu'on a des combats, des dépendances, qu'on a des chutes. On a tous des secrets. Tout le monde ici a au moins un secret que s'il était révélé au grand jour, au grand écran, vous seriez tellement honteux que plus jamais vous oseriez remettre les pieds ici. Et puis, la transparence, ça se travaille. Ça se travaille en allant avec son ami, en partageant les vraies choses, des combats, des péchés. La transparence, ça se travaille en marchant dans la lumière. Puis, devenir un ami, Développer une vraie amitié biblique, c'est un choix, puis c'est un choix qui est risqué. C'est un choix qui est dangereux, puis c'est un choix que pas tout le monde prenne. Des gens aiment mieux aller au resto de temps en temps, puis aller aux quilles le samedi soir, puis rester individuel, pas trop se reprendre, pas trop être transparent, pas trop être constant. Le dernier principe, le plus important, c'est Jésus lui-même qui nous enseigne l'Évangile. Agir selon l'amour, même quand on ne le ressent pas. Vous savez, tous les couples ont une phase romantique que les psychologues séculiers estiment à être entre 6 à 18 mois. Durant cette phase romantique-là, on porte un masque et puis on ne voit pas vraiment les vrais défauts de l'autre. Puis si vous pensez que vous, qu'après 2, 3, 4 mois, vous voyez vraiment les vrais défauts de l'autre, c'est que vous êtes aveugle. Je n'ai pas peur de le dire. Maintenant, après cette phase-là, on commence à rencontrer les vrais défauts de l'autre. Puis, le vrai amour, la vraie amitié, c'est agir selon l'amour quand l'autre agit pas selon quand l'autre agit pas bien envers moi, quand l'autre n'est pas aimable. Ça, c'est à contre-courant de notre société. Parce que notre société nous dit, si tu n'as pas le goût d'aimer, ben c'est hypocrite si tu aimes. Puis j'ai entendu même des croyants dire des fois, « Hey, ben, je ne veux pas lire ma Bible, ni prier, ni aller à l'église, parce que je ne veux pas être hypocrite. Je ne file pas. Au niveau de ma chair, je ne file pas comme ça. » Maintenant, Jésus n'enseigne pas dans l'Évangile qu'on doit suivre notre chair, nos émotions, les émotions de la chair. On doit les mettre à mort, selon l'apôtre Paul. Parce que les émotions de la chair sont inimitié contre Dieu. C'est contraire au plan de Dieu. Ce que Dieu nous appelle à faire au niveau de notre relation avec Dieu et de nos amitiés, c'est de ne pas suivre les émotions de notre chair. Tu n'as pas le goût de... Il n'est pas aimable, ton ami, ta femme, ton mari. Tu n'as pas le goût de l'aimer selon ta chair. Bien, agis selon l'amour. Peut-être bien que tu ne réussiras pas à avoir des sentiments d'amour, mais agis selon l'amour, puis fais des actes d'amour envers lui, envers elle. Donc, d'un certain point de vue, Dieu nous appelle à être des hypocrites par rapport à notre chair. Dieu nous appelle à ne pas suivre les émotions de notre chair. Si c'est être hypocrite, selon la définition de la société, ben, c'est biblique. Une autre chose que je veux vous dire, c'est une citation de Lewis. J'aime beaucoup Lewis. Dans un de ses plus grands classiques, Mere Christianity, il dit, « Ne gaspillez pas votre temps à vous demander si vous éprouvez de l'amour pour votre prochain. Agissez comme si vous éprouviez de l'amour. » Dès que nous faisons cela, nous découvrons un grand secret. Quand on se comporte comme si l'on ressentait de l'amour pour quelqu'un, on se met à ressentir de l'amour pour lui. Si vous faites du mal à quelqu'un envers qui vous éprouvez de la haine, vous vous retrouverez à l'air encore plus. Écoutez, Lewis, le livre « Mere Christianity », c'est C.S. Lewis que le gouvernement avait mandaté pour donner des prédications aux troupes britanniques durant la Deuxième Guerre mondiale. Fait qu'il prêchait à des soldats britanniques qui haïssaient les nazis, les Allemands. Fait que là, il est en train de leur dire que c'est normal d'éprouver de la haine si tu fais des actions de haine, mais que en agissant bien, tu peux réussir à développer de l'amour. Si vous faites du mal à quelqu'un avec qui vous éprouvez de la haine, vous vous retrouvez à l'haïr encore plus. L'homme du monde, l'homme non chrétien, traite bien uniquement les gens qu'il aime. Les chrétiens agissent avec amour envers tout le monde, et se retrouve à ressentir de l'amour grandissant pour tous, même pour des gens qu'ils n'auraient jamais imaginé aimer avant. On se retrouve, vous savez, dans l'église locale, dans nos implications, quand on prend soin de croyants, on se retrouve à aimer des gens qu'on n'aimait pas avant, qu'on n'aurait peut-être jamais imaginé aimer. Donc, écoutez, un des principes les plus importants pour votre couple, ceux qui sont mariés, pour vos amitiés, ceux qui sont célibataires ici, puis même pour votre relation avec Dieu, agissez avec amour, même quand vous ne le ressentez pas. Dans Matthieu 22, verset 37-39, il y a un docteur de la loi qui demande à Jésus, c'est quoi le commandement le plus important de toute la loi? C'est une pogne, il voulait avoir Jésus. Jésus, il répond, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta pensée. Puis voici le second commandement qui est semblable d'importance, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le commandement le plus important, c'est pas Dieu qui nous commande d'avoir des sentiments d'amour. Parce que Dieu ne peut pas nous commander d'avoir des sentiments d'amour. On ne contrôle pas nos sentiments. À la base, je contrôle mes actions, mais comment je feel, je ne contrôle pas ça. Donc Dieu, le commandement le plus important de la loi, c'est d'agir avec amour au niveau de Dieu et agir avec amour au niveau de notre prochain. Puis les sentiments, ils viennent. C'est souvent comparé comme le wagon de queue d'une locomotive, Tu as différents wagons, puis à la fin, tu as le wagon de queue. Puis il part en premier, mais il finit par suivre en bout de piste. Et puis, si vous voulez pardonner à quelqu'un avec qui vous avez de l'amertume, puis vous avez un sentiment de haine qui persiste, bien, faites des actions d'amour. Vous allez voir, ça marche. Ce que Lewis dit ici, le grand secret, là, ça fonctionne vraiment. Puis c'est une belle manière de ce que les émotions suivent. Pas qu'on veut mettre mettre de nos émotions là, comme le point principal à atteindre, mais quand même, c'est le fun quand ils arrêtent de nous opprimer. Donc, aimer l'autre en tout temps, même quand nos émotions nous disent le contraire. Faire exactement comme Jésus dans Romains 5:8. Dieu, alors qu'on était ses ennemis, qu'on était haïssables à ses yeux, ben, il a envoyé Jésus puis il est mort pour nous. Donc, il a fait des actions d'amour, alors que certainement, là, il ne va pas avoir le goût, d'un certain point de vue, de nous aimer. Maintenant, j'aimerais mettre sur la table ici une question importante pour ceux qui ne sont pas mariés ici. Levez donc la main ceux qui ne sont pas mariés, ici, s'il vous plaît. Génial. Fait que j'ai quelque chose pour vous. C'était pas juste pour les gens mariés ce matin. Une question pertinente. Si l'amitié est tellement importante dans la réussite, dans l'accomplissement, dans le succès d'un mariage, est-ce que mon amitié avec mon ami de cœur, présentement, est assez solide pour que j'envisage me marier un jour avec lui? Ça, c'est une bonne question. Écoutez, moi, la réponse que je pourrais vous donner, c'est une question. Est-ce que quand vous rencontrez un problème, un de ses défauts, une difficulté, un combat contre le péché qu'il y a, est-ce que votre inclination, votre réaction naturelle, c'est un désir d'aller à la croix pour aider la personne ou vous êtes porté à vous retirer? Si vous êtes porté à vous retirer, votre amitié n'est probablement pas encore assez solide pour que vous puissiez espérer avoir un mariage là, qui va réussir. Donc, écoutez, ça c'est un principe important. Puis, moi là, je sais que c'est pas biblique, c'est un conseil, mais à ceux qui ne sont pas mariés, là, prenez le temps de développer une amitié avant de vous marier. Attendez, le 6 à 18 mois de phase romantique, tu n'y vois pas les défauts de l'autre. Essayez de dépasser un petit peu. C'est sûr que si tu te maries après 4, 5, 6 mois, c'est sûr que tu ne découvriras pas les défauts de l'autre. C'est sûr à 100%. Puis à un moment donné, tu vas te retrouver à ton mariage, l'autre personne ne sera pas aimable. Puis là, une fois que tu es marié, ben, on sait que la parole nous enseigne de persévérer dans le mariage. Peu importe si ça a été sa volonté ou pas avant qu'on se marie, quand on est marié, c'est toujours, toujours, toujours la volonté de Dieu qu'on persévère dans le mariage. Personne ne peut jamais dire « Ah, ben c'était pas la volonté de Dieu, j'ai pas assez prié, j'ai pas assez développé d'amitié, fait que conséquemment, je peux me divorcer. » Non, ça marche pas de même. Dieu est un Dieu souverain, souverain même sur nos péchés, puis que tu aies bien fait ça ou mal fait ça avant ton mariage, quand tu es marié, Dieu te demande de persévérer, sauf deux exceptions. L'adultère, ben, on a un choix de quitter ou pas, et puis également l'abandon d'un conjoint non-croyant, le divorce. En tout cas, je ne connais pas exactement la position ici, mais souvent est considéré comme permissible. Mais à part ces deux exceptions-là, vous savez, où il y a une possibilité, Dieu veut toujours, toujours, toujours qu'on persévère dans nos mariages. Dieu est le divorce. Comment appliquer ce message-là à ma vie ce matin? Pour ceux qui sont mariés ici, entretenez votre amitié avec transparence. Gardez pas de squelette dans votre placard. Vous savez, Jacques 5:16, confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris, etc. La prière agissante du juste, c'est pas un verset qui est périmé et qui est plus applicable de nos jours. Je sais que le catholicisme a fait des abus avec ce verset-là et la confession au prêtre. Mais c'est biblique, confesser ses péchés aux autres. Puis s'il y a une place où ça devrait se faire, ben c'est bien dans le couple. Donc, moi, je vous encourage à ne pas garder de squelette pour les gens mariés dans votre placard, dans votre couple, à entretenir votre amitié, à vous montrer tel que vous êtes, quitte peut-être à risquer de vous faire blesser. Soyez là en tout temps, agissez avec amour en tout temps, surtout quand vous ne le ressentez pas. C'est là que c'est le plus important. Pour ceux qui ne sont pas mariés, ben, développez une passion pour Dieu. Puis recherchez à connaître d'autres personnes qui ont une passion pour Dieu. Souvenez-vous que les meilleures amitiés que vous allez bâtir, les amitiés qui vont vous transformer le plus, c'est les amitiés avec des gens qui ont une passion pour Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous et toutes cette semaine, puis vous rencontre avec son amour qui nous presse à mourir à nous-mêmes. puis à aller vers Dieu, puis vers notre prochain. Amen.